France Culture.
France Culture, Être et Savoir. Louise Tourelle.
Bienvenue dans Être et Savoir, le magazine de l'éducation de France Culture en direct ou en podcast. Aujourd'hui, vers la fin des manuels scolaires. Avec le numérique, l'école est-elle en train d'adopter d'autres formes d'organisation du savoir détachées du livre? C'est la question qu'on va se poser avec nos invités.
Ouvrez vos livres, page 394.
Excusez-moi, monsieur. Où est le professeur Lupin?
Ce n'est pas votre affaire, n'est-ce pas, Poitras? Ouvrez vos livres, page 394.
Ils sont longs, les manuels à Poudlard de page 394, tout de même, mais cette phrase, on l'entend moins dans les classes du monde réel de 2025. En tout cas, depuis la rentrée, les lycées d'Île-de-France passent par une plateforme numérique unique de la région pour avoir accès aux manuels scolaires, des manuels gratuits, dits libres. Ils sont mis à disposition ainsi qu'un outil appelé Pearl Trees. Cette plateforme, Pearl Trees, propose aux enseignants d'intégrer leurs ressources dans une arborescence où chaque document serait donc une perle. Dans le jargon pédagogique, on parle de granularité du savoir. En gros, c'est un peu la même chose que des articles qui seraient regroupés par thème dans une revue de presse au lieu d'être lus dans un ordre précis décidé à l'avance dans les pages d'un magazine. Lire un journal, c'est comme feuilleter un magazine, papier ou en ligne. Ça revient à suivre des choix éditoriaux établis par un groupe de professionnels. La région Île-de-France a aussi décidé de moins financer les éditeurs scolaires. Et ces derniers se font entendre, enfin les entendre aujourd'hui. Ils ont demandé un moratoire sur les plateformes numériques. Alors, faut-il voir dans ce davantage de numérique et de granularité un nouveau paradigme dans l'accès au savoir? Compte à gagner ou à perdre les élèves et enseignants? Le débat est ouvert dans Être et Savoir. Bonjour Agnès Botrel.
Bonjour Louise Touré.
Vous êtes directrice des éditions Magnard qui font partie du groupe Albin Michel. À vos côtés, en face de vous, Patrice Lamotte. Bonjour.
Bonjour Louise.
Vous êtes fondateur et PDG de Pearl Trees. Donc, il va y avoir du débat. Pearl Trees existe depuis 15 ans et s'intéresse depuis 7 ans à l'éducation. Et avec nous également à distance, Laetitia Perret. Bonjour.
Bonjour Louise Touré.
Vous êtes maîtresse de conférences en littérature et didactique du français à l'université de Poitiers. Vous enseignez à l'INSPE, Institut National Supérieur du Professorat et de l'Éducation. C'est bien de le redire. Et vous vous êtes intéressée à l'histoire des manuels. D'ailleurs, qu'est-ce qu'un manuel scolaire? Tout le monde va répondre. Agnès Botrel pour commencer.
Alors, un manuel scolaire, c'est un ouvrage qui traite du programme sur une discipline. C'est un compagnon, je dirais, pour l'enseignant comme pour l'élève, qui est structuré, validé par une équipe d'auteurs et d'éditeurs et partagé par la communauté enseignante et je dirais même plus le territoire national puisque les manuels scolaires sont diffusés sur l'ensemble du territoire national. C'est un outil qui est évolutif, qui est hybride. On est bien loin du petit Lavis de la fin du 19e siècle. On est sur un outil maintenant qui comporte à la fois du papier, du numérique. Mais le principal, c'est de structurer les savoirs et de présenter les programmes de manière complète.
Avec pléthore d'auteurs.
Hein. Avec pléthore d'auteurs.
Il est loin le temps où il y avait un ou deux, trois auteurs de mon temps, en fait. Là, on est sur plus d'une dizaine pour les manuels de première de mon fils. Oui. Édition Nathan pour l'histoire, Belin pour la géographie, comme ça on a cité plusieurs éditeurs. Pour vous, Patrice Lamotte, qui ne vous préoccupez pas de manuels scolaires, puisque vous, c'est Pearl Trees, donc cette arborescence sur laquelle on va revenir. Qu'est-ce qu'un manuel?
Un manuel, c'est un outil essentiel qui organise le passage entre deux mondes, le monde de la recherche, de l'expertise, et le monde de l'enseignement. Et donc, que ce soit sous forme numérique, papier, couleur, papyrus, c'est avant tout un pont, c'est un passage. Donc la question d'un manuel, c'est comment est-ce que ce que les gens qui réfléchissent à une question de littérature, de mathématiques, vont diffuser leurs connaissances dans la population, dans son ensemble, et notamment via les professeurs. Donc c'est l'outil des professeurs, c'est la première chose qu'on voit. Mais c'est pas n'importe quel outil des professeurs, le professeur a une quantité d'outils, pas que le manuel. C'est celle qui assure un socle de connaissances communs. On pourrait dire en savoir commun. La matière, le matériau, le format, la technologie évoluent, ont évolué, continueront à évoluer. Mais le cœur, c'est pas un récit, c'est pas un livre de littérature. Le cœur, c'est de l'expertise et de la connaissance. Et en France en particulier, cette expertise est coordonnée par les programmes de l'éducation nationale. Donc un manuel, c'est un outil qui suit et respecte les programmes de l'éducation nationale pour transmettre la connaissance au monde de l'enseignement.
En disant que c'est une interprétation du programme, le manuel, c'est pour ça qu'il y a différents éditeurs.
C'est une lecture du programme, tout à fait, par différents experts, donc nos enseignants, nos auteurs sont tous des enseignants, donc ils ont leur lecture du programme, et c'est pour ça qu'effectivement, quand on est sur une discipline, il peut y avoir jusqu'à 10 à 15 ouvrages à disponibilité des enseignants pour qu'ils choisissent en fonction de leur public, leurs élèves, en fonction de leur appétence, des thèmes qui sont abordés dans chaque ouvrage.
Laetitia Perret, le manuel, ce n'est pas un objet fixe. Vous vous êtes intéressée au manuel du 19e siècle. On mesure l'évolution de ce livre, qui est d'abord un livre, et je crois que ça, c'est aussi important, à travers le temps. À quoi ça ressemblait, les manuels, au début, en 1830, quand Guizot a voulu que les jeunes Français, surtout les garçons à l'époque, aillent à l'école. Et puis plus tard, on peut aussi penser au manuel du début du XXe siècle qu'on voit beaucoup dans les brocantes, les Malaisac la gare des Michards.
Alors, à partir du moment, effectivement, la définition du manuel, c'est que c'est un objet qui est intentionnellement conçu par un auteur ou des auteurs ou un éditeur pour un usage scolaire et qu'effectivement, il a pour finalité de répondre aux attentes institutionnelles, les programmes, en termes de saveur et en termes d'exercice. Évidemment qu'il va bouger dans le temps, puisqu'effectivement, les programmes bougent dans le temps. Et tout simplement, si on remonte au 19e siècle, ce qu'on va avoir, c'est quand vous parlez effectivement de Guizot, c'est cette question de à quel moment un enseignement relève d'un programme national. Donc, si je prends les manuels de lycée existent en réalité à partir du moment où on a un programme national du lycée, c'est-à-dire Napoléon. Pour le primaire, c'est une autre histoire, puisqu'il y a l'étape Guizot, mais il y a l'étape Ferry. Et ce qu'on sait des manuels de l'école primaire, par exemple, c'est qu'avant qu'on ait un programme national, c'était extraordinairement disparate, puisque l'apprentissage de la lecture se faisait souvent dans, par exemple, des Bibles, tout simplement. C'est-à-dire ce qu'on avait comme livre à la maison, en fait. Donc, en ce qui concerne le lycée, les manuels de la première moitié du 19e siècle, ils répondent à des programmes qui sont des programmes où l'enseignement de la littérature, c'est un enseignement qui relève de ce qu'on appelle la rhétorique. Et la rhétorique, c'est une conception de l'enseignement de la littérature qui consiste à travailler fondamentalement un exercice qui s'appelle le discours. En gros, on écrit comme l'auteur. On est dans une écriture d'imitation. Donc, on a un manuel avec des extraits d'auteurs littéraires qui sont classés en termes d'exercices d'écriture, des narrations, des lettres, des tableaux. Et puis, quand on va arriver à la réforme Ferry, qui n'est pas seulement une réforme du primaire, qui est une réforme du secondaire, qu'on va arriver à la réforme Ferry, là, on va avoir non plus l'exercice principal, ça n'est plus écrire comme l'auteur, mais expliquer l'auteur. C'est l'institutionnalisation de l'explication de texte. Et là, on va avoir deux manuels qui vont apparaître, qui vont être les manuels d'histoire littéraire, et les manuels de morceaux choisis, les recueils de morceaux choisis, qui proposent à nouveau des extraits, parfois les mêmes que ceux des manuels antérieurs, mais cette fois-ci classés par siècle et par auteur, puisqu'on est rentré dans l'histoire littéraire. Et ça concerne beaucoup de disciplines. Les manuels d'histoire vont énormément évoluer. Des manuels de Ferry, qui étaient des manuels où l'histoire, sa finalité, c'était de créer un jeune patriote. Donc on était dans une histoire qui était quand même quelque chose qui relevait du récit national pour participer à la formation patriotique. Donc on a en gros Clovis sur son bouclier. À des manuels qui, à partir des années 1980, vont devenir des manuels où l'histoire devient une étude de sources réelles. Et donc là, on va avoir par exemple des photos de bas-reliefs de l'époque de Clovis. Donc tous les manuels bougent dans le temps, en fait.
Oui, parce qu'ils sont aussi le reflet de l'évolution académique de la discipline. L'histoire, c'est un bon exemple. On passe d'une histoire qui est un récit. Et d'ailleurs, on entend souvent des éditorialistes, des commentateurs qui le regrettent, hein, et des politiques, surtout le récit national, à une histoire qui, pour les historiens, est l'étude de la source, donc du document qu'on retrouve reproduit dans les manuels d'histoire. Mais Laetitia Perret, j'ai une autre petite question à vous poser, parce que c'est pas seulement le programme qui évolue, ou plutôt à travers le programme, c'est pas seulement le contenu qui évolue, mais bien l'approche du savoir qui n'est pas du tout la même aujourd'hui, évidemment, qu'au 19e siècle, mais même qu'avant les années 80 ou à d'autres périodes.
Alors oui, bien sûr, on a les configurations des savoirs scolaires ont une histoire. On n'apprend pas la même chose de la même façon, quelle que soit la discipline, hein, en réalité. Je ne les connais pas toutes, mais en tout cas, pour le français, c'est évident, pour l'histoire, c'est clair, pour les langues vivantes, c'est une évidence aussi. On n'apprend pas la même chose de la même façon dans le temps. En gros, on a des grandes périodes. Pour le lycée, on a vraiment la période, on vous dit, de Napoléon jusqu'à Ferry. Ça, c'est une première grande période avec une certaine configuration de savoir. Après, on a une deuxième période qui va de Ferry, en gros, aux années 1970, où là, on a une deuxième grande période de savoir. Et après, on va avoir la période qui débute dans les années plutôt 70-80, qui reste majoritaire, hein, en termes de configuration de savoir dans beaucoup de disciplines jusqu'à notre époque actuelle, même s'il y a systématiquement, enfin, il y a des reconfigurations, mais qui ne sont pas aussi majeures. Et donc, effectivement, ça crée parfois ces étonnements, ces décalages chez des parents, par exemple, qui ne comprennent pas ce qu'apprennent leurs enfants, parce qu'effectivement, on est passé d'une configuration à une autre. Ça ne se fait jamais brutalement, hein. C'est toujours des choses qui sont par ce qu'on appelle par sédimentation, mais n'empêche que ça évolue assez considérablement, et l'enseignement qu'on a reçu lorsque l'on est né dans les années 60 n'est pas celui qu'on reçoit quand on est né dans les années 2000, ça c'est certain.
Bien évidemment, réalité que reflète le manuel, mais alors, qu'est-ce que c'est Pearl Trees par rapport à ça? C'est important aussi de le définir. Est-ce que ça s'inscrit aussi dans cette évolution qu'on vient de décrire, pas seulement des contenus, mais de l'approche du savoir? Et d'ailleurs, quelle serait-elle? Est-ce que vous pouvez la définir, Patrice Lamotte, cette relation au savoir et à son organisation?
Absolument. Alors, on est exactement dans la question. La nature de Pearl Trees, alors arbre à perles, on va le dire en français, c'est inspiré d'un livre de Thomas Mann qui s'appelle Le jeu des perles de verre, et qui imagine un monde un peu idyllique, où ce qu'on pourrait appeler une académie, donc des professeurs ou des gens passionnés, peuvent organiser librement tous les savoirs dont ils disposent, quels qu'ils soient. Donc ça peut être une toccata de Bach ou un dessin de Matisse, et les combiner pour créer des œuvres qui sont en fait des éditions. Pas au sens commercial des éditeurs, mais au sens de ce qu'est une édition, c'est-à-dire une combinaison de choses. Un manuel scolaire, par exemple, pour apprendre, pour échanger, pour partager, pour produire des choses plus belles en soi. Donc, le sens de Pearl Trees, depuis 15 ans, il n'a pas changé. C'est la démocratisation de l'organisation.
Est-ce que ça veut dire que chaque enseignant est censé être l'éditeur et l'organisateur des savoirs qu'il doit transmettre? Alors, on peut toujours ergoter sur le fait qu'on transmet ou non des savoirs, mais en tout cas des savoirs qu'il veut que ses élèves puissent eux-mêmes dominer, comprendre, en comprendre le sens pour peut-être s'ouvrir à d'autres connaissances, etc. Donc, aujourd'hui, parce qu'on est dans un monde plus méta, où on voit toujours un petit peu les ficelles, les rouages, l'organisation des choses, eh bien l'enseignant lui-même et peut-être l'élève lui-même deviennent des éditeurs, éditrices en quelque sorte.
Alors, pas au sens commercial à nouveau, mais c'est exactement
au
ça.
Au sens de la presse, hein. Pour moi, absolument. Ça c'est très clair. Hein. J'édite absolument. Cette émission, on édite des articles, c'est-à-dire qu'on a une intention et qu'on organise son propos en fonction de cette intention.
Voilà, et là, il est important d'être très clair. Donc, Pearl Trees permet à chacun d'organiser, avec intention, comme vous le faites, un savoir ou de l'écrire. Dans Pearl Trees, il y a trois grandes parties. Il y a le cours du professeur, où lui-même va pouvoir agréger son propre connaissance, son propre cours, son propre savoir, celui d'Internet.
Donc il peut rentrer un écrit et des documents, par exemple. C'est compliqué hein, à se figurer quand on n'est pas du tout enseignant. Donc des photos, un tableau...
Absolument. Donc cette partie...
J'essaie de trouver des exemples, comme j'enseigne pas, c'est difficile.
C'est exactement ça, vous êtes parfaitement dedans. C'est là où il crée son cours, où il partage avec les élèves. Et c'est une partie où les élèves d'ailleurs peuvent faire pareil, bien sûr, sous le contrôle du professeur, de manière sécurisée. Donc ça, c'est la partie où le professeur, au fond, fait ce qu'il a toujours fait. C'est son enseignement, son cours, son partage. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, ce sont des manuels scolaires. Alors, au sens plein du terme, c'est-à-dire organisés, construits. On a des partenariats avec à peu près la moitié des éditeurs aujourd'hui qui ont les manuels que vous avez sous les yeux, je parle bien du papier, avec leur narration, leur partie, leur sous-partie, ce que vous avez justement appelé leur perle. C'est-à-dire une perle, ça peut être un livre complet ou ça peut être une simple carte. Et tout ça absolument organisé, évidemment selon l'usage du professeur. Donc ça peut être linéaire, ça peut être arborescent, ça peut être narratif. Très simplement, tous les types d'organisations qui servent au professeur. Ça, c'est la deuxième partie. Et la troisième partie, dont on va parler peut-être, ce sont les manuels libres en Île-de-France, mais il n'y a pas que l'Île-de-France, il y a d'autres collectivités qui ont coproduit, souvent avec les autorités académiques, leurs propres manuels. Donc ce sont des manuels aussi, qui ont aussi une narration, mais qui ne sont pas signés nécessairement par un éditeur. Donc Pearl Tree, ce sont ces trois choses à la fois. Et c'est pour ça que, à la question, mais que vous n'avez pas posée en tant que telle, mais je vais y répondre, est-ce qu'on considère que les manuels sont importants ? Oui, on considère qu'ils sont totalement essentiels.
Qu'est-ce que ces manuels dits libres, parce que Agnès Botrel, ces manuels donc un peu made in Île-de-France, ils vous plaisent pas beaucoup. Pourquoi ?
Alors, pourquoi ? Tout d'abord, nous, ce qu'on conteste en tant qu'association des éditeurs d'éducation, c'est que désormais, en Île-de-France, il n'y a plus qu'un seul manuel disponible, c'est le manuel libre. Étant donné qu'on l'a dit, les budgets ont réduit drastiquement. Ils sont passés de 75 euros par élève, ce qui payait à peu près 8 licences, à 16 euros par élève. Donc, ça paye à peu près 2 licences à peine.
Donc deux manuels d'éditeurs.
Deux manuels d'éditeurs, de licences numériques d'éditeurs. Donc, nous, ce qu'on conteste, c'est l'existence de seuls manuels produits par la région sur le territoire de l'Île-de-France. Ce qui veut dire que on arrive dans une régionalisation du savoir qui nous semble bien contraire à justement ce que vous disiez au départ, la lettre de Jules Ferry et l'idée d'un savoir national.
Des acteurs privés garantiraient mieux
la pluralité. La pluralité.
Qu'une région,
alors. La pluralité éditoriale garantit la liberté pédagogique. L'enseignant a fondamentalement le droit de choisir son support. Là, en Île-de-France, il n'a plus le choix de choisir ni son support, ni son moyen d'accéder à ce support.
C'est intéressant parce qu'on décommercialise en quelque sorte une ressource. Vous savez, par exemple, on a remunicipalisé des services pour l'eau potable. Là, ce serait presque un même mouvement, sauf que c'est nouveau, puisque c'était... pas comme ça par le passé. Alors évidemment, les auditeurs, auditrices et moi-même, on se dit, surtout, vous avez beaucoup à perdre financièrement dans cette histoire. Est-ce que c'est ça aussi la pomme de discorde, finalement? Alors, Agnès Botrel,
au-delà, bien sûr, les éditeurs d'éducation travaillent à faire des manuels et vivent avec ces manuels, mais au-delà de la question financière, celle qui est plus importante finalement, c'est la question de l'éducation. Est-ce que économiser maintenant va pas nous faire perdre énormément sur le sens pédagogique et la qualité du savoir après? Les manuels libres sont loin d'être irréprochables. Déjà, ils sont pas vus par tout le monde. Enfin, un éditeur, déjà, il y a 15 éditeurs. Les enseignants auteurs sont extrêmement nombreux, vous l'avez souligné, plus de 10 enseignants auteurs parfois sur chaque manuel, des experts. Par exemple, quand on fait des manuels, ils sont à la vue de tout le monde et on a des contacts, par exemple, avec les associations.
Donc
comme
c'est
la
une question
ADE,
de professionnalisme.
De professionnalisme, de matériel de qualité également.
Difficile de répondre pour la région Île-de-France qui est assez avare de commentaires sur le sujet. Est-ce que ça a toujours été un objet commercial, Laetitia Perret, le manuel qui a aussi beaucoup porté le secteur de l'édition? On pense à des grands éditeurs comme Nathan, enfin j'ai grand par le poids économique, qui existe depuis le 19e siècle, on en parlait tout à l'heure. Laetitia Perret.
Le manuel scolaire, oui, bien sûr, c'est un objet commercial. À partir du moment où il devient effectivement un outil qui traduit les programmes, enfin les programmes en termes de savoir et en termes d'exercice. Il a une finalité qui est d'être vendu. Et à partir du moment où il traduit effectivement ses programmes en termes d'accès et de savoir, ce qui est assez intéressant quand on travaille sur les manuels dans une perspective historique, hein, ce que je fais moi, c'est qu'on se rend compte que tous les manuels sont du même ordre à une époque donnée, ils se ressemblent, et en même temps, chacun a sa spécificité, parce que chaque éditeur ou chaque auteur ou collectif d'auteurs va lui marquer son empreinte. Et ça, il y a une dimension commerciale qui fait que ils vont plus ou moins séduire les équipes enseignantes qui les choisissent. Le manuel, il a une histoire commerciale aussi, qui est une histoire technique et technologique, qui est par exemple, dans les manuels par exemple du primaire, l'arrivée de l'image dans la première moitié du XXe siècle va permettre au manuel, et tout d'abord au manuel des petits, mais aussi au manuel de géographie et d'histoire, d'avoir de la couleur. Et ça, c'est à la fois un objet pédagogique, mais c'est aussi évidemment un objet qui attire en termes de vente. Donc c'est les deux. Et sinon, pour ce que disait ce que disait l'éditrice par rapport aux lois Ferry, il y a une vraie question par rapport à la région Île-de-France. Hein. Je ne sais pas si je peux en parler
de
maintenant.
De liberté, mais c'est une vraie question. Liberté pédagogique défendue par Ferry et Buisson d'ailleurs.
Mais c'est ça. Il y a une vraie question. C'est-à-dire que le Ferry en 1880 instaure la liberté pédagogique dans le choix des manuels. Ça veut dire que les manuels ne sont pas choisis par l'institution scolaire ou l'institution de tutelle, mais par les équipes enseignantes. Un choix de manuel, c'est une consultation collective, hein, c'est un travail d'équipe. Ce n'est pas un prof qui choisit son manuel pour sa classe. C'est une équipe d'une discipline donnée qui se concerte. Ce n'est pas le cas partout. En Suisse, en tout cas pour le primaire et le secondaire, c'est les cantons qui proposent une liste de manuels. Au Québec, les manuels ils doivent être approuvés par le ministère de l'Éducation. La France, elle a cette spécificité-là. Et imposer effectivement une plateforme, c'est-à-dire imposer des ressources, ça interroge effectivement beaucoup cette question du choix, de cette histoire du choix pédagogique qui est une caractéristique quand même des manuels en France. C'est pas une ressource parmi d'autres.
Et ça, j'en ai parlé justement avec une enseignante. Je disais tout à l'heure que j'étais pas enseignante. Pour cette émission, j'ai voulu absolument interroger des professeurs. On va écouter Christine Guimonnet, professeure d'histoire-géographie dans le secondaire, dans l'Académie de Versailles. Elle est coprésidente de l'Association des professeurs d'histoire et de géographie de cette académie. Et je lui ai demandé ce que représentaient les manuels pour les professeurs de sa discipline.
Pour nous, c'est essentiellement une banque documentaire où il y a des résumés de cours que les élèves peuvent lire. Et puis, il y a aussi beaucoup de doubles pages avec des corpus documentaires sur les thématiques qu'on travaille dans le programme. Par exemple, une double page sur l'année 1789 avec des documents iconographiques, des textes. Bon. Et un questionnement qu'on peut garder tel quel ou qu'on peut modifier. Et on est très nombreux à ajouter un document, en retrancher un, puisque le corpus qu'on va donner à une classe dépend évidemment d'un degré de difficulté et puis des thématiques qu'on veut travailler avec les élèves. On a l'habitude de construire nos cours à partir de supports qui sont très variés. Notre première ressource, c'est ce que nous écrivons nous-mêmes à partir des livres, des articles que nous avons lus, des documents que nous avons récupérés dans des ouvrages ou donc sur des sites institutionnels comme celui de la BNF par exemple, des banques iconographiques de documents, et on tricote donc une armature pour notre cours. Pendant très longtemps, on avait des manuels papier, et avec le passage au numérique, les éditeurs ont conçu des manuels numériques, c'est-à-dire consultables avec des ordinateurs. Le problème auquel on est confronté, quand on n'a plus la possibilité d'avoir un manuel papier parce que le chef d'établissement a autoritairement fait ce choix, alors que les enseignants voulaient conserver le manuel papier, c'est la déclinaison maintenant des manuels dans ce logiciel qui s'appelle Perltrize, qui peut être pertinent pour certains usages, mais pas forcément pour tous.
Justement, pourquoi vous manquerait-il ce manuel papier ? Vous avez expliqué ce à quoi il sert, mais ce n'est pas forcément remplaçable. Est-ce que c'est important pour des élèves de 2025-2026 d'avoir une double page ouverte devant eux, d'avoir ces pages qu'ils peuvent regarder et puis aussi tourner ?
Oui, parce qu'on travaille dessus, en fait. Nous, on peut faire des montages à partir de blocs documentaires qu'on va imprimer. Mais l'avantage d'un corpus documentaire sur deux pages qui sont ouvertes, c'est que ça permet de confronter les documents les uns par rapport aux autres, puisqu'ils ont tous un thème commun. C'est, par exemple, faire les liens, faire la relation, ce que l'un dit, en quoi est-ce que c'est corroboré par le texte, en quoi est-ce que c'est affirmé. Donc, il y a une circulation en fait intellectuelle à l'intérieur du corpus documentaire sur lequel on fait travailler les élèves. Et le papier, ça permet aussi de se poser et de se concentrer en oubliant l'écran, les notifications pendant un temps dédié. Comme on est dans une société où c'est compliqué de vivre sans écran du tout, notre rôle à nous, professeurs, pédagogues, éducateurs, ça n'est pas de faire en sorte que des élèves qui passent déjà de nombreuses heures de la semaine sur leurs écrans de téléphone portable passent encore davantage de temps sur des écrans en cours. Et le problème, c'est que si on veut travailler sur une double page de manuel, comme les manuels ne se trouvent maintenant que dans le logiciel Pertrise, en fait, ça ne convient pas. Puisque un paragraphe, c'est une perle, un document, c'est une perle, le texte, c'est une perle, les questions, c'est une autre perle. En fait, il n'y a aucune vision d'ensemble.
On parlait des photocopies pour les manuels. Est-ce que vous allez imprimer plus de documents ?
Ah oui, bien sûr, puisque je fais des ensembles documentaires que je crée moi-même. Et je les imprime parce que je veux que les élèves aient dans leur cahier, dans leur classeur, les documents de travail du cours. Le cahier, le classeur, où on écrit à la main, ça reste un outil de travail. Et bien sûr, on va combiner cet outil de travail papier avec des outils numériques. Mais on doit avoir le libre choix pédagogique de ce qu'on veut faire avec nos élèves et des outils qu'on veut utiliser. C'est du temps où il faut se poser, se concentrer pour pouvoir s'intéresser de manière durable à un sujet, à une question, à un ensemble de documents. Moi, je veux pouvoir avoir une liberté de manœuvre pour que mes élèves aient leur cours papier. Dans Pronote, je vais mettre des équivalents en PDF des documents sur lesquels nous avons travaillé. Je mets les liens si on a regardé un documentaire. Bon, en fait, c'est une construction intellectuelle que chaque professeur décide et met en place en fonction des besoins de la classe et aussi du travail que les élèves ont à faire. Donc, c'est pas une opposition numérique-papier. Il faut que les deux trouvent leur place de manière à ce que ce soit les élèves qui en profitent pour arriver à maîtriser ce que j'appelle la connaissance durable.
Patrice Lamotte, fondateur et PDG de Pertrise. Dans cette émission, on parle d'une fin possible des manuels scolaires papier, mais aussi numériques. Que répondez-vous sur l'argument de la liberté pédagogique ?
La liberté pédagogique, c'est un élément essentiel depuis toujours dans l'éducation en France et qui va l'être encore plus. On est dans un temps d'accélération de l'histoire, on est dans un temps de relative instabilité politique. Et donc le lien de savoir commun que les manuels sont capables de construire est essentiel à partir du moment où cette liberté ou cette indépendance pédagogique est préservée. Donc c'est quelque chose de qui va bien au-delà d'ailleurs des manuels scolaires. La liberté pédagogique, si on regarde les textes, c'est la liberté pour un enseignant de choisir sa méthode d'enseignement. Et je sais que beaucoup nous écoutent, ils y tiennent énormément. Tant qu'ils respectent bien sûr les programmes, dans le cadre des programmes, et disent les textes avec la collaboration de l'inspecteur. Donc la liberté, ça n'est pas, ça n'a jamais été le choix entre quelques manuels de quelques éditeurs. C'est le droit fondamental d'un enseignant de choisir comment il enseigne. Et à partir de là, on a un débat fondamental. Quelle est la liberté, comme la professeure qui vient d'indiquer l'a dit ? Est-ce que c'est la liberté de choisir du papier, de choisir une plateforme numérique, une autre, ou de choisir entre un nombre réduit de produits ? Bien sûr que c'est la première. Et donc, en Île-de-France, il y a une quantité de plateformes numériques, il y a une quantité d'outils numériques, il y a une quantité d'éditeurs, puisque vous l'avez dit vous-même, il y a un budget pour les éditeurs aussi. Et donc, la liberté pédagogique, c'est justement la capacité de choisir tout ça.
Mais qu'est-ce que la liberté pédagogique quand, de fait, elle est réduite, quand il n'y a plus de budget ? Les enseignants ne peuvent plus acheter de manuels éditeurs, puisque à la place, on leur propose uniquement une plateforme unique, un contenu unique, le manuel libre et la plateforme Pertrise. Donc, ils n'ont même pas le le choix de leur support en Île-de-France,
non,
on est d'accord.
Il semble que vous avez dit vous-même qu'il y avait un budget très significatif. On parle de plusieurs millions d'euros pour les éditeurs. Si tu ne suis pas porte-parole de la région Île-de-France, ça aide le dire. Mais bien sûr qu'il y a un budget éditeur. Il me semble que si le papier a une vertu, c'est que les achats... Alors là aussi, hein, je ne suis pas porte-parole de la région Île-de-France, je le lis dans la presse, que si effectivement on a une dépense de 50 millions de papiers, ça doit encore servir. Les papiers ne sont pas retirés. Tous les enseignants d'Île-de-France ont... Si leur établissement l'a choisi, une partie collective, ont du papier.
Ils n'ont plus la possibilité de le changer. On est en réforme des programmes actuellement. Il y a une réforme des langues vivantes actuellement en Île-de-France. Et cette réforme des langues vivantes en Île-de-France, sur le territoire national,
une
réforme des langues vivantes sur le territoire national, où en Île-de-France, les enseignants qui avaient choisi du papier, de nombreux lycées de centre-ville, ne peuvent plus acheter de nouveaux manuels.
Le programme demande d'utiliser des contenus de plus en plus visuels, de plus en plus audio, de plus en plus variés.
Ils demandent également d'utiliser des manuels, des documents authentiques, ce qui manque cruellement aux manuels libres de l'Île-de-France, qui sont bourrelés de stéréotypes avec des images produites par
CIA. Les contenus, c'est intéressant parce qu'il y a toujours eu des polémiques sur les manuels scolaires aussi, des contenus qui étaient discutés. On va revenir au papier parce que j'ai trouvé intéressant ce qu'elle disait. Hein, quand même, Christine Guimonet, sur le fait d'être sur du papier, des pages qu'on tourne, un moment de concentration qui peut-être nous échappe, cette concentration dans le monde numérique. Qui parlait de pause numérique ? Eh bien, la ministre de l'Éducation.
Mais vous avez parfaitement raison. Les papiers aujourd'hui...
Attendez, on va l'écouter.
Apaiser le climat scolaire, c'est d'abord une bataille résolue, mais aussi raisonnée, contre ceux qui abîment, détournent et fragilise, notamment le fléau de la surexposition aux écrans sur lesquels nos élèves passent plus de 5 heures par jour en moyenne. 5 heures durant lesquelles ils sont livrés aux aléas des algorithmes avec tout ce qu'ils peuvent charrier de violence et de contenu inadapté. Je pense aussi aux dégâts causés par le cyberharcèlement, aux troubles relationnels et cognitifs, sans compter l'impact sur l'attention en classe.
Elisabeth Borne, ministre démissionnaire de l'éducation, selon la formule consacrée à l'heure où on se parle. Alors, vous n'êtes pas content, Patrice Lamotte, on va vous écouter. Pause numérique, ressources numériques, est-ce que ça rentre en contradiction ?
Non, pas du tout. Une des grandes qualités des manuels libres d'Île-de-France, ils ne sont pas les seuls, c'est qu'on peut les imprimer. Et on n'a pas besoin de déplacer des camions entiers, d'avoir un bilan carbone déplorable pour ça. Donc, s'il s'agit de lire sur le format papier, et si on prête une valeur au format papier, rien n'empêche absolument de l'utiliser. Il n'y a pas réellement aujourd'hui de débat.
Mais la pression devient à la... C'est pas comme le livre, c'est pas comme...
Et la pression revient à la charge de l'enseignant. Donc.
J'aimerais bien savoir si vous avez fait des études carbone. Le fait d'envoyer des camions, alors peut-être pas en Île-de-France, mais il n'y a pas que l'Île-de-France, dans les montagnes du Massif central. Je pense que le bilan carbone d'une impression à la ressource, comme la professeure l'a indiqué, ou à l'ensemble de ressources qui racontent une histoire, on n'a pas besoin de 100 pages, permet d'avoir à la fois le papier, le numérique et la réalité des manuels, comme on l'a dit jusqu'à présent. C'est qu'ils ont évolué, ils sont en train d'évoluer. Ils sont en train d'évoluer sur deux plans. Un, pas de question papier numérique, pas de question organisation dans l'organisation. En fait, tout existe en même temps. Un manuel libre, ouvert. C'est du papier si vous voulez, c'est du numérique si vous voulez. Ça mêle des vidéos, on en a besoin en langue. Ça mêle des audios, on en a besoin en langue. Donc tout ça, c'est un faux débat. Le premier temps, c'est la liberté des manuels. Et le deuxième temps, qui est un débat, et qui est plus un débat lié aux éditeurs, c'est quelle est l'indépendance pédagogique des productions d'éditeurs maintenant. Donc là, je pense que c'est un point très important.
Bah, Agnès Beutre, elle va vous répondre.
Peut-être une question avant. Combien y a-t-il de groupes, non pas de maisons qui appartiennent au même groupe, mais combien y a-t-il de groupes d'édition aujourd'hui, et pas pour le détail, pour 99% des manuels?
Alors, déjà, ça ne représente pas 99% des manuels. Il y a 32 maisons d'édition dans l'Association des éditeurs d'éducation. Et il y a des maisons d'édition, je vais citer le génie éditeur, Olivier Perrier, un éditeur de l'enseignement professionnel. Ce n'est pas un grand groupe, il n'appartient pas à un grand groupe. Il est lui-même enseignant. Et dans ce groupe des éditeurs d'éducation, il n'y a pas seulement Hachette et Editis. Moi, je n'appartiens ni à Hachette ni à Editis. Il y a un grand nombre de maisons d'édition et de petites maisons d'édition familiales également. Accès éditeur, une maison
des liaisons familiales.
Là, on a un paravent un peu... il faut employer les mots tels qu'ils sont. Aujourd'hui, 99% des manuels sont produits par trois grands groupes. Le premier appartient à Vincent Bolloré. Le deuxième à Daniel Kretinsky et le troisième auquel vous appartenez à la famille Albin Michel.
C'est aussi un milliardaire qui, je pense qu'il est milliardaire, je ne sais pas exactement l'état de sa fortune. En tout cas, c'est quelqu'un qui possède beaucoup de médias en France, assez divers, qui a racheté par exemple des médias indépendants ou un magazine tel que Marianne pour continuer dans les références à la presse. C'est aussi un univers qui m'est familier.
Il faut en parler, c'est le cœur du sujet. C'est-à-dire que traditionnellement, on a eu un foisonnement de maisons d'édition. La réalité aujourd'hui, c'est que, à quelques exceptions très particulières près, et je salue Olivier Perrier qui parte par ailleurs à ses manuels en version Pearltrice, pour 99% de l'édition aujourd'hui, vous avez affaire à trois groupes. Et même pas trois groupes totalement indépendants. L'Association des éditeurs d'éducation coordonne les discours. De sorte que ce que disent les éditeurs aujourd'hui, c'est la même chose, quelle que soit la maison.
Mais par rapport aux manuels libres, je vous pose la question à tous les deux. Donc on a des grands groupes possédés par des gens dont on partage plus ou moins pas les idées. On voit bien ce que ça donne dans la presse. On a des régions qui sont là, pour le coup, très très clairement aussi orientées politiquement. Des régions sont socialistes, des régions sont LR, etc. Ça aussi, ça pose
la bonne question. La bonne question aujourd'hui, et c'est ça le vrai sujet des éditeurs, c'est pas d'avoir une région de plus qui fait des manuels, mais il y a aussi des départements, il y a surtout l'éducation nationale qui font des manuels. La question, c'est est-ce que les manuels vont être la propriété de trois groupes, qui d'ailleurs sont liés les uns aux autres, qui d'ailleurs parlent ensemble, ou vont être ce que j'appellerais ouverts? C'est-à-dire que chacun va pouvoir créer ses ressources, qu'on soit l'Île-de-France, ou même un éditeur, pourquoi pas.
Pearltrice, c'est juste une entreprise. Après, il y a d'autres supports comme Padlet, qu'on connaît aussi, qui proposent ces arborescences des savoirs, et peut-être aussi d'autres logiciels libres. Ça pose beaucoup de questions, Agnès Botrel.
Bon, pour une discipline, un enseignant reçoit, je vous l'ai dit, 10 à 15 manuels. Donc, il a le temps de choisir entre ces manuels. Et la première sanction pour les éditeurs, c'est le choix de l'enseignant. Et si un manuel est trop orienté idéologiquement, l'enseignant le voit. Et d'ailleurs, c'est très très rare, mais l'enseignant le voit, ça. Et donc, il sera sanctionné directement par, vous dites qu'on est des groupes capitalistes, effectivement. À un moment, si la maison d'édition a pris un parti pris trop fort et que ça ne convient pas à l'enseignant, l'enseignant ne choisira pas son manuel. Et c'est pour ça, la liberté pédagogique qui est là, c'est qu'entre 10 à 15 manuels, il peut faire son choix. Là, en Île-de-France, il n'a plus qu'un seul manuel.
C'est un choix artificiel entre 19 manuels. Mais ce sont trois groupes.
Ce sont quand même des manuels différents, mais trois groupes, vous l'avez dit. Alors, on va parler de l'arborescence et de la granularité des savoirs avec Léa, qui est professeure de français, alors au collège, pour le coup, dans l'Académie de Rennes, qui a un territoire numérique éducatif, donc innovant. C'est pour ça qu'ils ont eu des financements, mais ces financements ne sont pas pérennes, on va l'entendre. Et elle m'a expliqué, Léa, comment et pourquoi elle utilisait Pearltrice.
Alors, j'utilisais Pearltrice depuis environ 5 ans maintenant. Je l'ai utilisé tout d'abord parce qu'il était utilisé dans l'établissement dans lequel je suis arrivée il y a 5 ans. Et il faisait partie un petit peu de la manière de travailler de l'équipe. Ça permet, dans un premier temps, aux élèves de retrouver les documents que l'on aborde en séance à travers un espace délimité et facile d'accès. Et c'est aussi un espace qui est agréable pour travailler avec les collègues, puisque ça permet de s'échanger des documents, de travailler ensemble un peu dans un mode collaboratif. C'est une plateforme qui permet de recueillir des sources très variées. Donc ça permet de déposer à la fois les cours que l'on crée, de récupérer des documents qui ont été créés par d'autres. Ça permet de mélanger différents types de supports, donc que ce soit des supports écrits, des supports vidéo, des supports audio. Et ça permet de collecter comme ça plein d'informations et de les organiser. Donc ça organise et ça hiérarchise les informations. Et c'est en ça que c'est assez pratique et où dans l'interface, c'est agréable de travailler sur Pearltrice. Ça offre aussi une ergonomie qu'on ne trouve pas dans d'autres propositions actuelles, qu'elles soient via des logiciels libres ou d'autres comme Padlet, etc. Donc voilà, il y a une ergonomie qui est aussi attractive et fonctionnelle. Voilà, je pense que c'est à peu près le tour de l'utilité que j'en fais et de ce à quoi ça sert. Dans l'utilisation de Paltrix, moi, la limite que je vois, entre autres, c'est son déploiement et le fait de réussir à cacher toute une équipe autour de son utilisation, parce que là, nous, dans notre académie, on y avait accès dans une démarche collective et académique où c'est grâce à l'Éducation nationale qu'on avait sans abonnement l'accès à cette plateforme. Alors, je vais jargonner, mais c'est parce qu'on faisait partie dans l'académie des territoires numériques. Et donc, ça donnait un accès libre et gratuit à cette ressource. Là, ce contrat-là, il prend fin. Et donc, l'ensemble du travail qui a été fait sur ces dernières années d'appropriation et de personnalisation de la plateforme. Par exemple, moi, j'ai déposé des centaines de documents, de ressources qui me servent à faire les cours auxquels mes élèves ont accès, des centaines de documents sur lesquels je travaille avec des collègues, etc. Et bien, tout ça est voué à disparaître parce que, faute de moyens, on ne pourra plus exploiter ce dispositif et il faut qu'on migre vers d'autres dispositifs numériques. Et donc, c'est un travail qui recommence et c'est vrai qu'il y a une sorte de lassitude qui s'installe. Parce qu'il y a des choses qui sont enclenchées et sur lesquelles on revient après en arrière. Et donc à chaque fois, c'est un travail d'adaptation, ça prend du temps, etc.
Est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui n'est pas anticipé, alors non pas par les fabricants des plateformes forcément, mais par l'Éducation nationale, le fait que ces plateformes et ces outils ne sont pas forcément aussi pérennes que ça et qu'on en change et qu'on n'a pas encore trouvé la solution pour l'archivage et la conservation du travail des professeurs?
Disons que tant qu'on n'a pas de plateforme développée directement par le ministère, on est dépendant dans notre travail d'un ensemble de plateformes privées que l'on utilise faute d'autres propositions aussi attrayantes, ergonomiques, etc. Et donc tant que c'est fait ainsi, ben, nous on est forcément à dépendre des politiques qui sont mises en place et les instabilités, les changements, etc., s'accompagnent donc, nous, dans le travail et par ces plateformes numériques aussi, de contraintes, de variabilités et de changements qui, à chaque fois, demandent de l'adaptation. Et donc, c'est vrai qu'il y a une sorte de continuité qui n'est pas pensée pour faire en sorte que ça ne soit pas une perte de temps, au final, et d'investissement.
France Culture, être et savoir. Louise Touret.
Et dans ce numéro d'Être et Savoir, on s'interroge sur la fin des manuels scolaires, en tout cas au lycée, en tout cas en Ile-de-France pour le moment, pour ce qui concerne les manuels édités par des éditeurs tels que Magnard, que représente Agnès Vautrel ici présente. L'enseignante qu'on vient d'entendre, Léa, pose une super bonne question. Quid du travail qu'on a confié à des plateformes? Et c'est pas du tout la première fois que cette question traverse des univers professionnels. En fait, on est sur chez des acteurs privés, on leur confie notre travail et ça peut disparaître du jour au lendemain. Patrice Lamotte,
absolument,
fondateur et PDG de Paltrix.
C'est la même question que celle de la liberté pédagogique. Ou plus exactement, elle a la même réponse. Ce qui garantit la pérennité des ressources des professeurs, leur travail, par-delà les fluctuations économiques, la concentration dans le monde de l'édition, éventuellement les fluctuations des start-up, je ne m'exclus pas du tout, de l'ensemble, c'est la capacité à pouvoir exporter tout ce qu'ils ont et le garder sur leur propre ordinateur, sur leur propre téléphone, et le remettre dans n'importe quelle plateforme, quelle qu'elle soit. Et c'est ce que garantit Paltrix. On garantit que tout ce que vous mettez dans Paltrix, vous pouvez le sortir à l'identique. Je vais même aller plus loin, sur des manuels donc qui ne sont pas à nous, par exemple ceux de la région Île-de-France, les manuels libres, vous pouvez en totalité les exporter, les garder, les imprimer. Et donc, quelles que soient les fluctuations d'une plateforme ou d'une autre, et aucune plateforme est éternelle, vous aurez votre travail. Ça répond exactement à la question de la professeure qui est très juste, et ça répond à la question de la liberté pédagogique. Comment garantir la liberté pédagogique dans un monde de concentration économique extrêmement fort, dans un monde de trompe-l'œil, on croit avoir 19 maisons, on a 3 groupes, en fait, en ayant la capacité de tout accumuler et de tout réutiliser partout. Et c'est exactement la raison pour laquelle les manuels libres sont une nouveauté aussi déterminante, c'est probablement la raison pour laquelle ça irrite autant les éditeurs.
Bon, vous n'avez pas eu le temps de le dire, je le dis maintenant, parce que sinon on va finir l'émission sans prononcer le nom du bon auteur. Ce n'était pas Thomas Mann, mais Hermann Hesse, auquel vous faisiez référence tout à l'heure, pour l'arbre...
Jeu des perles de verre.
Le jeu, voilà, merci. Valérie Pécresse, puisqu'on parle de la région Île-de-France, a indiqué au quotidien Le Monde, c'était le 9 septembre, que 75% des manuels numériques étaient pas, enfin que les élèves en fait n'ouvraient pas les manuels numériques, qu'on se rendait compte hein, qu'ils avaient jamais été consultés par les élèves. Alors, je voudrais que vous commentiez ce chiffre, Agnès Botrel, et puis. Je me demandais si finalement vous aviez pas signé un pacte avec le diable avec cette histoire de manuel numérique, parce que c'est pas comme un livre le numérique, c'est pas quelque chose qu'on feuillette de la même façon. En fait, on se fait plutôt guider par des algorithmes qui nous emmènent d'un point à un autre dans les univers numériques. Quand je feuillette le manuel d'histoire de mon fils, je sais pas si lui-même le feuillette hein. J'ai une double page sur Victor Hugo, c'est génial. On a un portrait de Victor Hugo, on a un récit autour de la mort de Victor Hugo, et c'est extrêmement intéressant, et on est à la croisée des lettres et d'histoire, etc. Et puis si on décide d'aller à une autre page, on a autour d'un chapitre sur l'Empire, un texte d'Edgar Quinet, qui n'est pas qu'une station de métro, et c'est extrêmement intéressant. Et moi, je peux passer vraiment du temps dans ce manuel. Je fais la pub pour aucun éditeur et aucun format, et je passe plus de temps sur les écrans. Bref, on n'ouvre pas ces manuels, et il n'y a plus de sérendipité avec les manuels numériques.
Alors,
vous éditez.
Tout à fait. En 2024, alors les statistiques données par Valérie Pécresse, donc sont des statistiques de 2024, précisément l'année où donc les éditeurs sont rentrés sur contraints et forcés sont rentrés sur Pearl Trees. C'est donc des statistiques dont on peut se demander si ce n'est pas Pearl Trees qui a entraîné une baisse des usages élèves. Auparavant, ces usages ne sont pas connus par l'Île-de-France, et surtout ils omettent quelque chose de très important, c'est le cours en classe. La plupart des enseignants vidéoprojettent leurs manuels. Donc effectivement, les usages élèves peuvent être considérés comme faibles, mais en fait, c'est une ouverture de manuel pour 30 élèves qui visionnent en même temps le même texte, le même document, et qui travaillent tous ensemble autour de ce document. Donc c'est un des gros usages qui est souvent peu comptabilisé, puisque c'est celui de l'enseignant qui ensuite va dire à son élève, allez page 24, comme au début, allez page 394 du manuel. Donc voilà, pour en tout cas, pour moi, c'est ce que sont les usages. Et sur, est-ce qu'on a pas fait rentrer le diable dans le manuel numérique. Alors, le manuel numérique...
Non, c'est pas ça. On perd un peu la pratique du livre en lui-même, sa pagination, ce rapport sensible aussi.
C'est pour ça que
je suis pas fétichiste, mais
nous préconisons, vous avez raison, nous préconisons en tant qu'éditeurs d'éducation un usage raisonné des deux. Le meilleur du papier et le meilleur du numérique. C'est-à-dire le meilleur du papier, vous l'avez dit, pour pouvoir feuilleter, découvrir, s'enrichir, mais aussi pour mémoriser. On mémorise beaucoup mieux sur le papier que sur le numérique. Chacun a passé des examens où il se souvient que c'était en haut à gauche de la page où il avait la date de Edgar Quinet. Le numérique, ça permet de s'entraîner, de faire des exercices interactifs, d'avoir des vidéos, et tous ces manuels, celui que vous avez dans les mains il propose aussi des outils numériques en maths, par exemple. On a accès à des plateformes de mathématiques pour s'entraîner à faire des exercices. Donc les manuels papier sont maintenant des manuels hybrides et évolutifs, et d'ailleurs actualisés aussi tous les ans. Et le manuel numérique éditeur est fondamentalement un manuel qui reproduit la double page, donc la structure, et c'était très important ce qu'a dit votre enseignante tout à l'heure sur la notion de vision d'ensemble, et c'est ça ce que permet le manuel en double page, c'est une vision d'ensemble de l'apprentissage.
Après, sur une arborescence, on peut quand même avoir une vision d'ensemble, mais ça n'a pas vraiment le même visage, mais on le voit aussi quand c'est proposé, pareil, hein, pour la presse. Alors je précise, Edgar Quinet était député républicain, il avait dû quitter Paris à la suite du coup d'État de décembre 1851. Il a publié le livre de l'exilé en 1852. Merci donc au manuel d'histoire de première de Nathan. Est-ce que finalement le sujet et ce qui nous inquiète, Laetitia Perret, c'est pas aussi la place du livre dans la vie des élèves et des jeunes générations, et pour nous qui sommes, si ce n'est des boomers, peut-être de génération X ou je ne sais quoi, c'est une rupture qui nous semble aussi être une perte.
Alors c'est possible, c'est difficile à dire, parce que ce qu'on... y a eu une époque où très probablement le manuel était le livre des familles. Ça, par exemple, dans ce qu'on avait, mais ça, c'est au début du XXe siècle, quand on avait les manuels de lecture courante, comme Le Tour de la France par deux enfants, ce qu'on appelle les romans scolaires, donc ces ouvrages qui étaient absolument merveilleux, où à travers tout un récit, on apprenait tous les domaines de l'apprentissage de l'école primaire, tous les domaines du savoir. Là, ça rentrait dans les familles. Ce qui va vraiment, en fait, démocratiser le livre, c'est pas tellement le manuel, hein, c'est le livre de poche. C'est le livre de poche qui fait rentrer le livre dans les familles. Et après, est-ce qu'on lit des manuels scolaires à la maison ? Ce qu'on sait en sociologie de la lecture, c'est qu'il y a quand même une vraie frontière entre les lectures privées et les lectures scolaires. Donc, est-ce que ce manuel papier qui disparaît, fait disparaître aussi des actes de lecture sur du papier ? C'est très, très difficile à dire. En revanche, ce qui est sûr et certain... c'est qu'avec ce type, les plateformes type Pearl Trees, les élèves n'ont plus que du numérique. Et là, je partage assez en fait ce que disent en réalité les collègues et l'éditrice, hein, c'est que n'avoir que du support numérique et n'avoir comme activité d'exercice que du numérique, donc cliquer, glisser, etc., je pense que là, effectivement, c'est une véritable perte en termes de diversité des façons d'apprendre et de lire. Et ça, je pense que ça, c'est effectivement à interroger.
France Culture, être et savoir. Louise Touret.
Alors, on va reparler hein, des manuels, parce que il y a aussi des manuels de sciences, et je voulais évoquer dans cette émission la fête de la science qui a lieu chaque mois d'octobre. Cette année, elle se déroule du 3 au 13. Elle aura pour thème l'intelligence, ou du moins intelligence, avec un S entre parenthèses. Avant de venir à Radio France ce matin, je suis passée voir Ange Ansour, que je connais depuis longtemps et qui a déjà participé à cette émission. Elle dirige l'Association française pour l'éducation par la recherche, et je crois qu'on n'est pas si loin du sujet d'aujourd'hui, asso qui œuvre pour initier les jeunes de tous horizons à la recherche scientifique et à l'innovation technologique, et qui met en œuvre un programme qui s'appelle les Saventuriers. Hyper intéressant ce programme tout au long de l'année, et ensemble on s'est demandé comment parler de science aux élèves d'aujourd'hui.
Il existe en France une multiplicité d'initiatives, c'est très ancien. Et souvent, elles ont le calendrier des chercheurs et des institutions. La fête de la science, c'est pas le calendrier scolaire, c'est les calendriers de l'université, des institutions de recherche. Nous avons fait un choix différent. On s'est dit, il y a un habitus propre aux gamins, propre aux élèves, aux classes, la rentrée scolaire. Donc, la première chose qu'on a fait, on a créé, cette année, 66 000 élèves ont transformé le mois de septembre en une rampe de lancement, une génération qui s'empare des sciences et technologies. 10 chercheurs, 10 défis scientifiques, faisable en classe, entre 3 à 6 heures, sur les enjeux actuels de la recherche, pas des sciences déjà fixées, des savoirs stables. Ben, je vous donne un exemple. Comment savoir ce qui marche pour l'avenir de la planète ? On ne sait pas. Enfin, comment on le transforme des savoirs scientifiques en des incitations comportementales, en des convictions. Donc, on a travaillé avec Mélusine Boonfaller, qui est chercheuse à Sciences Po, qui a fait sa thèse en sciences cognitives sur les mécanismes de collaboration chez l'espèce humaine. Et ben voilà, on fait quelque chose où les élèves donnent sens aux sciences. C'est pas uniquement scolaire. On se sert pas des sciences et de la recherche pour didactiser les notions en classe, pour les rendre accessibles. Non, on dit, l'école fait très bien son travail, nous on va voir la place sociale, l'usage, qu'est-ce qui excite intellectuellement ces chercheurs et en quoi nous on participe au même monde des travailleurs du savoir.
Waouh. Alors, on connaît la main à la pâte, par exemple. Pierre Léna est venu dans l'émission il y a peu de temps, donc ça c'est l'expérimentation pour
observer, c'est la démarche scientifique. Vous, ce que vous proposez avec Les Aventuriers, c'est un petit peu différent, c'est de faire des hypothèses de recherche. Est-ce que c'est pas un peu sophistiqué pour des élèves de primaire et de collège?
Alors, je dirais qu'il n'y a pas une opposition fondamentale. Nous, on a dit qu'au-delà de la démarche d'investigation, il y a la démarche de recherche. Quand vous prenez un stagiaire, un L1, L2, L3, qui arrive dans un labo, ben, on lui dit pas de générer des hypothèses de son esprit, on lui dit « voilà la problématique ». Voilà l'état de l'art, il y a des gens qui ont travaillé là-dessus. Et voilà la démarche. Ils n'inventent rien. Pourquoi nous, on veut en classe que les gamins soient perdus et que les enseignants soient perdus? Donc nous avons pris quelque chose qui marche depuis Galilée, qui s'appelle la démarche de recherche, et on l'a dit, voilà, c'est facile. Au début, il y a des questions. Il y a des questions très précises. La facilité avec les sciences, c'est que ça ne porte jamais sur des généralités. Jamais. Donc des choses très précises. Ensuite, on n'est pas les premiers.
Un exemple.
Comment déduire la santé du sol en comptant les vers de terre? On s'occupe d'un unique paramètre. Et on se pose une question. Est-ce qu'on peut déduire la bonne santé du sol à partir du nombre de vers de terre qu'on trouve dans un échantillon? On n'est pas les premiers à se poser cette question. Donc il y a un état de l'art. Donc on va se plonger un petit peu en classe dans un... Ben, on ne va pas lire toute la littérature sur la question, mais un petit peu, on fournit des supports. Et ensuite, on fait le protocole. Ben, comme des stagiaires dans un labo, ce n'est pas très compliqué, on n'invente rien. Et après, on rentre dans l'éthique de la recherche. Ce que nous avons trouvé, nous devons le justifier et le publier et être validé. On fournit aux enseignants, aux élèves des gabarits d'articles scientifiques ou de posters scientifiques. Comme ça, ils ont la méthode, ma problématique, ma méthode, ma bibliographie, mes étapes, mes résultats. Et on les discute. Et aussi, c'est un apprentissage pour l'ensemble de l'école. Parce que les enfants et les élèves et les adolescents arrivent à un moment où ils découvrent les dissertes, des choses plus complexes en sciences, et ils n'ont pas la clé. Ben nous, on leur dit, en fait... C'est simple, ça fonctionne toujours pareil. C'est beaucoup plus facile que la littérature ou l'histoire géo. Ça ne change jamais, qu'on ait 8 ans ou 15 ans. C'est toujours une problématique, des gens qui ont travaillé dessus, une question, et je fais des résultats, je ne sais pas s'ils sont complets ou pas, et je discute ma problématique. Et c'est la même chose avec une disserte.
Est-ce que la démarche scientifique a besoin d'être défendue dans notre société où le doute est très répandu sur plein de questions? On peut penser aux vaccins, on peut penser aux platistes aussi. Il y a plein de théories qui circulent partout sur nos réseaux.
Je ne sais pas si mon rôle d'enseignante est de défendre la science. En revanche, mon rôle en tant qu'éducatrice, c'est de donner à tous les élèves la possibilité de délibérer sur des fondements scientifiques et d'arbitrer avec humanisme. Et c'est ça ce qui est nécessaire. On ne peut pas aujourd'hui lancer un jeune dans la vie sans qu'il ait une littératie, une alphabétisation scientifique extrêmement solide. Donc à un moment, il ne suffit pas de parler de fake news, ou de ça, mais revenir à comment on produit un savoir. C'est ça ce qu'il me semble nécessaire de faire, qu'on ne fait pas assez à l'école. Au moment où les élèves vont comprendre que leur manuel scolaire, pour boucler la boucle, n'est rien d'autre qu'une traduction scolaire de ce que font les chercheuses et les chercheurs dans leur labo, on gagne une bonne partie. Ils vont comprendre que le savoir n'a pas le même statut que l'information, même correcte. Et ça, cette distinction, il me semble qu'on passe trop dessus.
Angeance Sourd qui propose un manuel sciences et technologies d'émission pour des apprentis chercheurs. C'est pour les CM1, CM2 chez Nathan. Sur la science, on peut écouter aussi mon podcast avec Pierre Léna. Merci beaucoup à vous deux, Patrice Lamotte, Agnès Botrel. D'ailleurs, aujourd'hui, on peut même lire des livres du programme en ligne sur Paltrice. Qu'est-ce que vous en pensez en tant qu'éditrice des œuvres complètes, des œuvres d'auteurs?
Oui, bah alors bon, tant que le respect du droit d'auteur est là, pourquoi pas, je dirais. Après, on sait que la lecture en fil, en scroll, est beaucoup moins, imprime beaucoup moins dans l'esprit que quand on est sur du papier. Donc bon, moi, je resterai sur des œuvres à lire sur le papier pour bien comprendre l'œuvre.
Merci Agnès Botrel. Pierre Lamotte, vous lisez, Patrice Lamotte, pardon, vous lisez des livres papier?
Ah oui, sans arrêt. Je lis des livres papier. Alors malheureusement, souvent de l'antiquité que j'aime beaucoup, on avait des rouleaux de parchemin qui se scrollent. Et comme quoi, vous voyez, ça boucle en fait. Il y a des œuvres qui sont faites pour être scrollées. Mais voilà, pour réconcilier tout le monde. Ce qui est formidable avec les manuels libres, et ce ne sont pas les seuls, c'est que vous pouvez les imprimer. Et donc les lire tout aussi bien au papier et même les scroller sur papier.
Merci à tous les deux, merci à Avril Ventura, adjointe à la production d'Être et Savoir, réalisée par Camille Mathy avec Sorge Leroy et mise en onde par Dali Yaha.